Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose priorité santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elles sont en vente libre en pharmacie, remboursées pour certaines d'entre elles à hauteur de 30% par la Sécurité sociale. Des granules, des gouttes, des préparations homéopathiques qui demain pourraient ne plus être prises en charge. Au-delà de cette question du déremboursement, les attaques qui ciblent cette médecine alternative se multiplient en France depuis le printemps dernier. En mars, une tribune réquisitoire est signée par plus d'une centaine de médecins, publiée dans la presse. On y retrouve les termes, je cite, ésotériques, obscurantistes ou même charlatans. Ces signataires réclament une médecine basée sur des preuves. Diffamation, message anticonfraternel, contre-attaque le syndicat des homéopathes français devant l'ordre des médecins, controverses médiatisées et débat aussi sur l'avenir de l'enseignement de cette pratique au sein des facultés de médecine. Une remise en question tous azimuts qui fait regretter aux instances représentatives de l'homéopathie une forme de chasse aux sorcières. L'amalgame entre homéopathes autoproclamés et médecins formés, le peu de cas accordé au temps de consultation à la capacité d'écoute des homéopathes et à leur approche globale de la santé, comme à l'efficacité avérée de l'effet placebo, peu de cas enfin et peut-être surtout réservé aux millions de patients qui adhèrent à l'homéopathie. Une étude de 2015 montre que 77% des Français lui font confiance et qu'un Français sur deux y a déjà eu recours. Projecteur sur le débat sur l'homéopathie en France aujourd'hui, dans Priorité Santé. Pas question de polémiquer, mais de comprendre pourquoi ça discute autant avec nous. Professeur François Chaste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien des hôpitaux de Paris, avec nous également docteur Dominique Paulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et homéopathe uniciste. En studio, enfin, docteur Pierre de Brémond-Dars, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste. En mars dernier, vous aviez signé la tribune anti-médecine polémique nouvelle médecine alternative de mois de mars hein, dans le Figaro. Et tout à l'heure, vous nous direz pourquoi. Et nous serons aussi en ligne avec Jean-Pierre Thierry. Il est conseiller médical de France Asso Santé, une fédération d'usagers et de patients. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et on attend vos appels, hein, comme chaque jour dans Priorité Santé. Notre numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on ne va pas vous cacher que monter aujourd'hui une émission sur l'homéopathie en France, c'est pas très facile. Et on va essayer de comprendre pourquoi, au cours de cette émission, pourquoi une telle tension sur un sujet médical qui ne faisait pas de vague il y a quelques années. Et on peut même le dire, professeur François Chaste, l'homéopathie, ça ne mettait pas grand monde en colère il y a quelques mois, on va dire même début 2017.
C'est pas tout à fait exact. L'homéopathie, on peut dire que son acte de naissance, c'est 1810. Donc plus de deux siècles. Eh bien, dès les premières années de son exercice, en particulier en France, l'homéopathie a soulevé des polémiques importantes au point que l'équivalent d'un premier ministre de l'époque, Guizot, qui a travaillé à l'ombre de Charles X, puis de Louis-Philippe, Guizot s'est engagé pour l'homéopathie lorsque la toute jeune Académie nationale de médecine demandait la suppression de l'exercice de l'homéopathie, donc dans les années 1830.
Mais dans l'histoire de la médecine, qu'une partie de la profession s'oppose à l'autre, c'est vrai, c'est même vrai pour Pasteur.
Oui, sauf que très rapidement, Pasteur et les pasteuriens ont apporté la démonstration
scientifique
et la communauté scientifique nationale puis internationale a partagé les idées de Pasteur et aujourd'hui plus personne n'évoque la génération spontanée ou l'absence du rôle de bactéries ou de virus dans l'apparition des maladies. Donc l'affaire de Pasteur, elle a duré 2 ans, 3 ans et puis tout le monde s'est rendu à cette évidence la réalité de la théorie pasteurienne.
Mais est-ce que vous diriez quand même, professeur Chaste, que le ton a changé? Ce débat, il existe, il a existé depuis longtemps, d'ailleurs sur les médecines alternatives, médecine classique, même pour notre auditoire médecine traditionnelle, mais non, que sur cette spécificité de l'homéopathie, est-ce que le temps a changé ?
Ce changement. Ce qui a changé, c'est l'hyperprésence des médias, des réseaux sociaux, de la diffusion de l'information, mais de tout temps. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 25 ans, l'Académie nationale de médecine se prononçait déjà défavorablement à la mise en place d'un enseignement de l'homéopathie dans certaines facultés de médecine. Il y a 10 ans, l'Académie nationale de médecine demandait le déremboursement de l'homéopathie. Aujourd'hui, ce qui est présenté par la ministre Agnès Buzyn, ça n'est pas le déremboursement de l'homéopathie. Agnès Buzyn dit tout simplement, et qui peut lui en vouloir, y compris les homéopathes, nous allons procéder à l'évaluation des médicaments homéopathiques au même titre qu'on évalue tous les médicaments, et si cette évaluation rend compte de résultats favorables, nous allons continuer de rembourser. En revanche, s'il y a des résultats défavorables, alors là, plus rien ne justifiera qu'on rembourse des médicaments qui sont inefficaces.
Qui n'ont pas fait les preuves scientifiques selon les critères des médicaments classiques
oui,
aujourd'hui.
Enfin, on est à la recherche de critères nouveaux qui nous permettraient de faire cette évaluation.
Il faut bien évaluer selon des critères de toute façon. Docteur Dominique Paulin, vous êtes homéopathe uniciste. Comment est-ce que vous définiriez votre pratique ? Docteur Paulin.
Oui, c'est-à-dire ?
Comment est-ce que vous expliquez à quelqu'un qui n'est jamais allé chez un homéopathe, qu'est-ce qu'il va trouver de particulier dans cette pratique, plutôt qu'aller chez un médecin généraliste qui n'aura justement pas cette mention homéopathie sur sa plaque ?
C'est tout d'abord effectivement une écoute prolongée, une analyse des symptômes. Et c'est vrai que le fait de trouver un remède qui corresponde à la globalité des symptômes, donc à la globalité du sujet, peut vraiment l'aider dans des maladies chroniques, des situations très compliquées. Moi, j'ai été attachée à l'hôpital Bichat pendant 10 ans dans le service du professeur Madelena, qui d'ailleurs nous a écrit une lettre afin de nous soutenir en disant qu'il avait remarqué pendant ses 10 ans de collaboration très étroite qu'il y avait un bienfait pour les patientes. Et quant à l'évaluation, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr, j'ai une formation scientifique de départ. Sauf que les critères d'évaluation pourraient être aussi des critères qui correspondent à l'homéopathie.
C'est-à-dire
que, par exemple, si on veut savoir si Apis est efficace dans les angines, c'est pas très intéressant, puisque quand j'ai 20 angines, 20 patients avec des angines, je vais donner 20 remèdes différents qui correspondent à la spécificité du sujet et la caractéristique de l'angine. Donc si on peut évaluer avec nos critères, tout en évidemment en échangeant, en discutant les remèdes, moi je suis absolument d'accord et il faut absolument le faire.
La question, c'est bien ce rapport entre le produit et le patient, c'est une vraie problématique de fond, professeur François Chasse, quand on parle d'évaluation, de comprendre qu'il y a des principes actifs, il y a des principes, il y a une réaction de l'organisme. Comment on fait pour justement, quand on veut des critères qui tiennent sur une feuille de papier, comment on fait pour que ça marche ?
Alors, vous savez, la médecine est un domaine de l'activité humaine d'une extrême complexité. Et au cœur de cette complexité, il y a la complexité de l'homme lui-même. Balint, qui était un psychanalyste qui a pratiqué la médecine générale au milieu du XXe siècle, a eu une approche psychothérapeutique en médecine générale. Et ce que l'on a appelé plus tard les groupes Balint ont mis en œuvre ce rôle de la relation tout à fait spécifique, de la relation entre le médecin et le patient qu'il traite dans l'évolution favorable de la prise en charge d'une maladie. Et Balint, je vais le citer, disait « Le médicament le plus fréquemment utilisé en médecine est le médecin lui-même ». Donc nul doute que ce rôle particulier du médecin, lorsqu'il accueille à la porte de son cabinet, puis qu'il raccompagne le patient, après lui avoir prodigué des prescriptions qui sont la conséquence d'un examen attentif, d'un interrogatoire, d'une mise en jeu d'un environnement familiale, sociale, professionnelle, nul doute que cette relation spécifique a une place centrale dans la guérison des patients. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que nous devons redonner du sens à la consultation médicale. Pour autant, vous parliez d'angine. Ce qu'on apprend en médecine, et qui est un variant, c'est qu'il y a des angines inflammatoires, des angines microbiennes, des angines virales, et probablement d'autres encore, et que pour prendre en charge ces angines, il faut utiliser des agents thérapeutiques qui peuvent venir à bout de ces causes de l'angine. On peut aussi, et c'est en général ce qui marche le mieux, ne rien faire. Et dans de très nombreux cas, ce que l'on appelle l'évolution naturelle de la maladie est le meilleur médicament, c'est-à-dire que l'homme a en lui-même, le patient a en lui-même, tous les éléments qui vont lui permettre de venir à bout de l'angine que l'on est en charge de soigner. Il suffit d'un peu de patience ou d'une chaussette gorgée de sel chaud que l'on se met autour de la gorge pour que l'angine, au bout de quelques heures ou de quelques jours, guérisse d'elle-même.
Dominique Paulin, je vous donne la parole avant d'entendre docteur Pierre de Brémondard, ce qui n'est pas là pour faire de la figuration. Je vous donne la parole, Dominique Paulin.
Je suis tout à fait d'accord dans un cas aigu. Le problème est que parfois on voit des enfants qui font 20 angines par an. Et le problème, c'est la répétition de l'angine, comme si toutes ses défenses naturelles n'arrivaient pas à lui permettre de surseoir la maladie. Et j'ai très souvent de nombreux de ces enfants en consultation qui, après un traitement homéopathique approprié, au miracle, l'année suivante, alors qu'on vient de sortir de carnets de santé bourrés d'antibiotiques, de cortisone, etc., se retrouve avec peu ou pas de symptômes. Entre les deux, il y a juste eu l'intervention d'un remède approprié à l'enfant.
Alors, on va revenir sur la polémique de mars dernier. C'était donc par voie de presse interposée. Il y a eu la riposte des homéopathes devant l'Ordre des médecins. Docteur Pierre de Brémondard, vous avez signé cette fameuse tribune dans le Figaro. Pourquoi ?
Alors, je vais commencer par déclarer, comme c'est obligatoire, je n'ai aucun lien d'intérêt avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mmh. La tribune, du coup, a été rédigée et signée par à la base 10 médecins, puis 124, puis après plus de 3000 professionnels de santé et patients ont signé la tribune. Mm-hmm. La tribune, à la base, n'avait pas pour cible l'homéopathie. Elle avait pour cible les médecines
alternatives. Donc il y a aussi l'acupuncture dedans.
Il y a pas mal de choses des dérives. L'idée n'était pas de cibler une thérapeutique en particulier, mais de lancer un débat, un questionnement sur... Qu'est-ce qu'on veut comme soin demain en France ?
Vous dites lancer un débat, mais j'ai lu cette tribune. Dans les termes, il y a « nous demandons à l'ordre des médecins de ta 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 », notamment retirer le titre, on va dire, de médecin aux personnes qui emploient des protocoles homéopathiques ou une démarche digne de l'homéopathie, voire même de l'acupuncture, ce qui peut quand même... Allez-y, alors dites-moi ce qu'il y a écrit exactement.
On a pris comme base de notre tribune le texte de déontologie médicale. Dans ce texte, il est clairement précisé qu'un médecin ne peut pas faire la promotion de pratiques non éprouvées. Donc l'idée, c'est de se mettre en rapport, de se mettre en règle par rapport à ce code de déontologie. Donc les médecins doivent à la fois ne faire la promotion de leur consultation en tant que médecin que de pratiques éprouvées. L'idée n'est pas de retirer le titre de médecin aux homéopathes. L'idée est de séparer les pratiques. C'est-à-dire qu'ils fassent de l'homéopathie à côté et que quand ils font de la médecine, ils font de la médecine en tant que médecin généraliste, dans la plupart des cas.
Mais ce n'est pas un peu ce qui se passe, docteur Paulin, si quelqu'un vient, on va dire, pour une maladie clairement définie. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une angine bactérienne. On fait un petit relevé, on voit qu'il y a effectivement des germes. Là, vous dirigez vers quoi ? Vers une antibiothérapie ou vous allez aller vers l'homéopathie ?
S'il y a streptocoque, c'est évident que je vais traiter par antibiotique. Il ne faut pas être stupide non plus.
Par contre,
comme je le disais tout à l'heure, si cet enfant a tendance à récidiver de manière chronique, là, il est très intéressant d'intervenir pour qu'il puisse arriver mieux à se défendre contre ce streptocoque. Et c'est là qu'on peut intervenir de manière extrêmement profonde, efficace et à long terme.
Parce que, docteur Pierre de Brémondard, moi, je m'interroge. Je me dis, si une mère arrive avec un enfant, elle ne sait pas ce qu'il a. Elle dit... Bonjour, je parle à l'homéopathe. Mais si cet enfant a besoin d'une médecine dure. Et si le médecin homéopathe généraliste juge que c'est une médecine dure qui est nécessaire, elle va pas dire je vous donne pas cette médecine parce que je suis homéopathe et que l'ordre des médecins m'a dit de ne pas traiter cet enfant. Là, je comprends pas comment on fait.
Alors, l'idée, c'est pas forcément d'être aussi précis dans le détail. L'idée, c'est de, au niveau de la société, que l'État et que du coup, au travers de l'État, du coup, le peuple choisisse ce qui est bon de rembourser ou non. Mmh. On ne veut pas du tout limiter l'accès aux médicaments homéopathiques aux patients. Ils seront toujours disponibles en pharmacie, de façon à nous rembourser. Le coût, on nous l'a assez répété, est assez faible. Et on a vu, par exemple, que le déremboursement en Angleterre n'a pas entraîné un report vers les autres médicaments. Les gens continuent d'aller le chercher s'ils le souhaitent, s'ils y croient, les granules en pharmacie. Le but, c'est que l'argent qui est utilisé dans l'homéopathie, qui aujourd'hui est évalué à 200 millions d'euros pour les granules, mais il y a aussi tout l'argent de la formation, tous les financements qui sont donnés pour les développements professionnels continus, qui forment du coup des médecins à l'homéopathie, sans preuve scientifique de cette efficacité, que cet argent puisse aller à des choses qui ont fait la preuve de leur efficacité. Les infirmières auprès des personnes âgées en EHPAD, les diététiciennes dans le cas du diabète, l'activité physique adaptée dans les cas des maladies cardiovasculaires. On a un système de santé qui a pas assez d'argent, et on a aujourd'hui du coup un choix à faire sur ce qu'on veut rembourser.
Vous faites le lien aussi dans cette tribune entre l'homéopathie et la défiance au vaccin. Pourquoi ?
Parce que c'est ce qu'on a constaté dans nos pratiques. Et c'est ce qui est démontré notamment aussi dans une étude récente publiée dans le JAMA, le Journal American of Medicine, qui montre que les personnes qui sont suivies pour un cancer, si elles sont traitées pour le cancer et qu'elles ont, en plus du traitement normal du cancer, des pratiques alternatives, elles vont avoir tendance à refuser des soins qui auraient permis d'améliorer leur survie. Et on parle d'une étude sur plusieurs dizaines de milliers de patients qui est publiée là récemment.
Alors comment vous comprenez que des grandes institutions d'oncologie comme l'Institut Curie ou l'Institut Gustave Roussy préconisent des soins de support, dont l'homéopathie ?
Non, ils ne préconisent pas. Bah, ils acceptent.
Ils acceptent et il y a des liens avec des structures qui font ça. On a fait une émission récemment, on les a reçus les deux autour de la même table.
Non mais attendez, de la même manière que l'on accepte que des coiffeurs viennent dans les hôpitaux pour que les personnes atteintes de maladies se sentent mieux.
Vous comparez l'esthétique aux soins de support.
Mais c'est très important. Enfin,
je vous pose la question. Je ne savais pas que la coiffure était un soin de support. Je pensais que c'était un soin corporel.
C'est un soin. Mmh. Et pour des personnes qui perdent leurs cheveux, il est très important que l'aspect physique...
Je ne mets pas en cause le fait que ce soit essentiel, bien sûr.
Et les soins palliatifs, ils ont été faits pourquoi il y a 50 ans, quand les hospices britanniques ont commencé à s'intéresser à cette question? C'est que les malades, quand ils se regardaient dans la glace, ne se reconnaissaient plus. Mm-hmm. Parce que l'approche de la mort est une aussi, je veux pas utiliser le mot déchéance, mais une défiguration de ce que l'on a été naguère. Et donc, que l'on accepte que des naturopathes, des aromathérapeutes, des acupuncteurs, des homéopathes interviennent dans les soins de support, dans les soins de support, et pas dans les soins de thérapeutiques anticancéreuses, au fond, tout est possible, dès lors que le bien-être du patient peut être renforcé. Et ça, c'est notre objectif suprême, que nous puissions guérir si possible, soulager dans la mesure où nous le savons, mais en tout cas apporter ce que les Américains appellent le care, le soin, l'approche compassionnelle, empathique d'une équipe médicale qui se penche sur un patient en lui apportant tout ce qu'elle peut lui apporter pour le mental comme pour le physique. Et donc, c'est tout à fait acceptable que l'Institut Curie, Gustave Roussy ou des hôpitaux hospitalo-universitaires ou non hospitalo-universitaires acceptent ce principe. Je voudrais revenir sur deux éléments que vous avez évoqués, le coût de l'homéopathie et l'association vaccination-homéopathie. Le coût. Si je peux dire, il faut tordre le cou à ce problème du coût. Pourquoi ? Bien sûr, les granules, ça coûte rien. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'évaluer la globalité des coûts de santé chez les patients qui prennent de l'homéopathie et chez les patients qui n'en prennent pas. Et il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques mois qui a été publié dans une des plus grandes revues scientifiques internationales, PLOS ONE, qui est une revue de l'Académie des sciences américaine, et qui a comparé les coûts de santé en Allemagne dans deux groupes de patients, 22 000 qui prenaient de l'homéopathie, 22 000 qui n'en prenaient pas. Et un suivi sur 33 mois, donc presque 3 ans, ce qui permet d'avoir des résultats assez significatifs dans toutes les régions allemandes. Que ressort de cette étude ? C'est que les patients qui prennent des médicaments homéopathiques coûtent une moyenne par an. Ce sont des patients qui ont 33 ans en moyenne, ce n'est pas des personnes âgées en fin de vie. À 33 ans, le coût annuel des soins, c'est 10 000 euros quand on ne prend pas d'homéopathie, 12 000 euros quand on prend de l'homéopathie. Et donc, qu'on arrête de nous dire que l'homéopathie, ça coûte rien. Évidemment, ça coûte rien. Il y a de l'eau et du sucre. Comment voulez-vous que ça coûte quelque chose ? Il y a ni recherche, ni coût de matière première. Il y a juste un tube en plastique à un dixième de centime l'unité dans le coût de fabrication de l'homéopathie. Mais le coût pour la société, il est très important. C'est en gros 20% de plus. Donc, nous avons intérêt à modérer l'impact de l'homéopathie, même si 40% des Français lui sont favorables. En matière de vaccination,
partir sur le coût de l'homéopathie.
Oui, mais je viendrai sur la vaccination parce que c'est très important. Nous sommes en train d'opérer une grande campagne de vaccination contre la grippe. Il faut faire en sorte que ce soit un succès cette année et qu'on n'ait pas encore des milliers de morts comme l'année dernière avec des campagnes fallacieuses anti-vaccinales.
Qui ne sont pas forcément menées par des homéopathes, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, qui participent d'un système de mise en doute de la réalité scientifique de l'exercice de la médecine et de la réalité des médicaments. Donc, il y a un lien entre l'homéopathie et les campagnes antivaccinales. J'en apporterai la preuve.
Docteur Paulin.
Oui, pour revenir au coût, je pense que, notamment en Suisse, les mutuelles qui savent évaluer les coûts des patients ont décidé de rembourser les consultations d'homéopathie et l'homéopathie, puisqu'ils ont remarqué que ces patients tombaient quand même beaucoup moins malades que les autres. Ça, c'est pour une chose. Pour la vaccination, le fait qu'il y ait une connexion entre homéopathe et anti-vaccin me semble complètement aberrante. C'est absolument pas ça le sujet. Et en tout cas, pour ma part, je vaccine quand il est nécessaire de vacciner. Et je ne suis jamais contre ce qui peut aider un patient. Par contre, une vaccination éclairée, en fonction de chaque patient, ça me semblerait une ouverture. Voilà.
Mais les vaccinations obligatoires, par exemple, quand il y a la campagne des 11 vaccins désormais obligatoires pour les enfants, c'est quelque chose, on ne peut pas passer au travers, puisque c'est la loi.
C'est la loi, bien sûr, donc on est obligé de vacciner.
Voilà.
Par contre, moi j'ai écouté une interview du professeur Rouault, qui est quand même infectiologue, qui participait, qui a dirigé des revues d'infectiologie internationales, et qui est là, à mon avis, a une attitude extrêmement ouverte et intelligente concernant la vaccination, et que cette espèce de package imposé semble quand même excessif par rapport à la situation actuelle et certains types de vaccins.
En tout cas, c'est la loi en France aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est ce que doivent respecter les parents s'ils veulent notamment scolariser les enfants, notamment les faire garder en crèche. Ils n'ont pas le choix. C'est ces 11 vaccins et ce n'est pas autrement.
C'est
de
évident.
De la même manière qu'il faut passer le permis de conduire pour conduire une automobile.
Il n'y a pas eu plus de vaccins qu'avant. C'est les 11 qui étaient déjà faits dans 99,9% des cas. Le seul souci, c'est qu'il y avait une épidémie et qu'il y a en cours de rougeole qui se développe en Europe. Et on a aujourd'hui des morts de la rougeole, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. À cause notamment de ce manque de vaccination.
Et quand il y a une épidémie de méningite dans un établissement scolaire ou universitaire,
on vaccine tout le monde.
Et les parents sont très contents que les médecins se précipitent et que les hôpitaux se mobilisent pour organiser la vaccination.
On va s'extraire quelques petites minutes du débat, parce que je voudrais qu'on entende une patiente qui a recours à l'homéopathie. Elle s'appelle Sylvie, elle a 56 ans, elle est graphiste, elle vit en région parisienne, et elle se soigne donc surtout avec ses granules, avec l'homéopathie. Elle est au micro d'Alice Milot.
Voilà ma boîte d'homéopathie. Il y a quelques dizaines de tubes. Dans la famille, on se soigne à l'homéopathie prioritairement, de préférence, depuis plus de 15 ans. Et donc, voilà, ce sont des tubes dans lesquels il y a des petits granules. C'est des petites billes blanches qui ont un goût de sucre et qui font 3 mm de diamètre. Alors, il y en a que tout le monde connaît parce que voilà, c'est souvent prescrit même par les allopathes. Par exemple, l'arnica montana, ça sert à cicatriser ou quand on a des bleus, des bosses, voilà.
Vous êtes capable de vous servir vous-même dans cette boîte en fonction de ce que vous avez ?
Pour une petite part d'entre eux, oui. Le Nux Vomica, quand on a le nez bouché. Mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent l'homéopathie, qui font beaucoup d'auto-prescription. C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien appeler mon médecin ou aller le voir quand j'ai quelque chose et je lui redemande. Sauf si, dans le cas d'affections un peu chroniques qui reviennent souvent, dans ce cas-là, je garde l'ordonnance, je la recherche et je la ressors. Mais si tout va bien, les choses chroniques, au bout d'un moment, l'homéopathe les soigne, donc on n'a plus besoin de la prescription. Voilà.
Votre médecin qui est donc un homéopathe ?
Oui, notre médecin traitant, c'est un généraliste homéopathe.
Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu dans quel contexte vous avez pris cette décision de vous soigner principalement à l'homéopathie ?
En tout cas, je me souviens la première fois que ça a été très efficace et que ça m'a décidé à en faire mon mode de médecine privilégié, c'est que j'ai eu pendant une période des sinusites. Toute personne qui en a eu sait à quel point c'est pénible et douloureux, même si c'est pas grave. Et c'est arrivé plusieurs années de suite, au même moment de l'année, aux périodes des fêtes. Donc, galère pour trouver un médecin, voilà. Et traitement, alors les deux premières années, je me souviens, un traitement allopathique, très lourd à l'époque, avec location d'une machine, cortisone, grosse cavalerie. Alors ça s'est soigné, mais c'est revenu. Et à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, ben voilà, je vais essayer autre chose. Et j'ai fait un traitement homéopathique, donc qui a été suivi d'un traitement de fond, toujours en homéopathie. Et j'ai plus jamais eu de sinusite. Petite anecdote quand même, je me souviens que le traitement avec la location de la machine, la cortisone et tout, m'avait coûté, à l'époque, c'était plus de 100 euros. Et le traitement équivalent en homéopathie avec les mêmes résultats dans les mêmes délais m'avait coûté, je pense, 5 euros ou quelque chose comme ça. Puisque un tube de granules, ça coûte, je voudrais pas dire de bêtises, mais dans les 2-3 euros. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, toute votre famille se soigne à 100% à l'homéopathie ?
On ne peut pas se soigner à 100% à l'homéopathie parce que l'homéopathie ne soigne pas tout. En cas d'affection grave ou de choses compliquées, il faut de toute façon chercher au-delà. Ça peut être des antibiotiques en cas d'infection aiguë, ça peut être pour des douleurs musculaires qui ont pour origine une chute ou une foulure ou voilà. Là, l'homéopathie n'est pas efficace, en tout cas, c'est pas l'homéopathie qui va redresser ou soigner un muscle, voilà, il y a d'autres soins mais j'ai peu d'exemples en tête en fait parce que c'est pas arrivé souvent. C'est vrai que je n'ai pas une entière confiance dans l'industrie pharmaceutique et que je sais que globalement, l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire avéré grave. Donc par rapport à ça, je suis confiante. Après, je ne suis pas fâchée avec l'allopathie, je suis plus fâchée avec la façon dont beaucoup de médecins allopathes exercent la médecine. Parce que cette situation de maladie bénigne, chronique, quand on va voir un médecin allopathe, bah, il redonne à chaque fois le même médicament, mais il ne cherche pas forcément la cause, les facteurs qui pourraient faire que ça revienne, etc. Alors qu'un homéopathe, il a une démarche beaucoup plus globale. J'ai l'impression qu'il soigne une personne entière et pas juste un petit endroit du corps qui est malade. Et ça correspond plus à ma vision de la bonne santé.
Une des critiques qu'on entend souvent contre l'homéopathie, ce serait que ce serait un simple effet placebo, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça m'agace parce que je trouve ça stupide de l'écarter dans un traitement, d'écarter son rôle. Donc je ne dénie pas l'effet placebo. Je pense que quand on soigne quelqu'un, on soigne un corps et un esprit étroitement mêlés et que partant de ce principe de réalité, pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas l'effet placebo dans un traitement, qu'il soit homéopathique ou de toute autre nature ?
Témoignage au micro d'Alice Milo. Vous réagissez, professeur François Chaste, en disant que ben, l'effet placebo, c'est reconnu en médecine aussi. Cette femme le reconnaît aussi. Mais ce qu'elle met en avant surtout, c'est quand même cette fameuse consultation, oui. Cette fameuse capacité d'écoute.
Oui, c'est ce que nous disions au début de notre débat. Je crois que le premier médicament étant le médecin, il est très important que la qualité de la consultation médicale soit valorisé par la revalorisation des actes de consultation. Ça, c'est un point que les médecins, notamment généralistes, mettent en avant depuis des années, des dizaines d'années, donc c'est important. Pour détendre un peu l'atmosphère, je voudrais citer un de vos confrères journalistes, Claude Imbert, qui a été un grand journaliste, directeur du journal Le Point, et qui disait en 2007 « L'homéopathie, remède idéal des maladies qui guérissent toutes seules. Hélas, le moment s'impose de soigner les autres. » Alors, c'est une...
C'est rare qu'on demande aux journalistes de faire de la médecine, hein. Plutôt, d'habitude, c'est plutôt l'inverse.
Claude Imbert avait dû probablement avoir recours à l'homéopathie comme 40% des Français. Donc, il n'était pas plus mal placé que l'un d'entre
n'importe
nous
quel patient,
pour
ouais.
en parler. Mmh. Et donc, j'aime bien cette boutade parce qu'au fond, elle résume bien les choses vis-à-vis du placebo. Le placebo, c'est très important. On sait depuis toujours... Corvisart soignait le médecin de l'empereur Napoléon Ier, soignait une bonne part de ses malades par des boulettes de mie de pain. Et donc, il considérait que ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, on sait dans des grandes revues internationales, notamment des revues Cochrane, que les placebos, ne serait-ce que dans le traitement de l'hypertension artérielle, qui n'est pas une mince affaire, ont une activité dans 30 à 40% des situations.
Je voudrais revenir après du coup sur la consultation.
Docteur Pierre de Brémond-Darce, on va vous donner la parole parce qu'on a quelqu'un qui nous attend en ligne, il ne va pas pouvoir attendre, j'ai surtout peur qu'on perde cette ligne, donc je vais vous laisser réagir sur la question de la consultation.
Donc, je suis médecin généraliste exerçant en centre de santé, donc mes consultations sont limitées par en effet la valeur temps donc de 25 €, j'ai pas la possibilité comme mes confrères homéopathes de faire des dépassements d'honoraires, de passer une heure avec un patient. Je dois avoir pas mal de monde malheureusement pour assurer aussi un suivi de l'ensemble de la population sur le territoire. Et c'est là où on arrive justement sur le nœud du problème, c'est que le médecin généraliste que je suis fait du suivi. Ce que ma collègue fait en une heure, je le fais le faire sur plusieurs consultations étalées sur l'année. Et ce qu'on voit, c'est par exemple les patientes que je vois pour des rhumes le premier hiver, je prends le temps la première fois de leur expliquer qu'il faut se moucher, humidifier la pièce, ne pas forcément recourir au sirop de sein. Je ne les vois plus l'année d'après. Donc c'est ce que je dis à mes patients. Moi, j'ai au plaisir de ne pas vous revoir.
Mais malgré tout, ce temps d'écoute, même si vous dites, je ne sais pas, ça peut durer 20 minutes, en général une consultation chez un généraliste, est-ce qu'il y a cette possibilité, on avait entendu ça récemment avec les remboursements de la Sécurité sociale, de faire des super consultations quand il y a vraiment l'exposé d'un cas pratique, d'un cas particulier, de dépasser ce temps pour avoir davantage de qualité d'écoute?
C'est le problème de la médecine générale, c'est qu'on est souvent en retard. Pourquoi est-ce qu'on est en retard en consultation? C'est parce qu'en effet, s'il y a besoin, on prend le temps. On parle de situations, il y a le terrain qu'on prend en compte, mais il y a aussi, bien sûr, le quotidien avec des patients qui viennent pour des souffrances au travail, pour de la violence. Et donc, cette démarche d'éducation thérapeutique, d'enseignement, de transfert aux patients, c'est vraiment ce vers quoi l'association NoFakeMed, le collectif qu'on a créé suite à on veut s'engager là-dedans. Utiliser, du coup, YouTube, les réseaux sociaux, des supports papier pour autonomiser les patients, leur expliquer ce qui se passe en eux, leur expliquer comment fonctionne la santé, pourquoi on prend des décisions, et aller du coup vers une démédicalisation de la société. Donc c'est-à-dire que les gens aient moins recours aux médecins et aient recours quand ils ont besoin.
Alors on va donner la parole non pas à un médecin, mais au conseiller médical de l'association France Assos Santé, Fédération d'usagers et de patients, Jean-Pierre Thierry, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est-ce que vous inscrivez-vous dans ce débat? Vous êtes un sceptique? Vous êtes un curieux? Qu'est-ce que, justement, vous pensez de tout ça?
D'abord, donc, comme vous l'avez dit, France Assos Santé, c'est la réunion de 80 associations de patients et d'usagers. Donc, on ne peut pas passer à côté d'un débat sur la perspective d'un déremboursement de l'homéopathie, un déremboursement éventuel de l'homéopathie pour des raisons qui ont été données, c'est-à-dire la fréquence du recours à l'homéopathie des Français qui est supérieure à d'autres pays qui auront plutôt tendance à recourir à d'autres médecines complémentaires comme des compléments alimentaires, des vitamines ou de la phytothérapie. Donc c'est un vrai sujet. Alors maintenant, moi, dans mon rôle de conseiller médical, je peux vous dire plusieurs choses. Je peux dire au groupe de travail qu'il n'y a pas de gaz scientifique valide qui permettrait d'expliquer que l'homéopathie fonctionne sur la physiopathologie des maladies avérées. Ça a un impact, je vais y revenir, mais ça ne fait pas diminuer de taille une tumeur en général, ça ne fait pas baisser le cholestérol, etc. Bon, par contre, ça a une efficacité réelle qui est celle de l'effet placebo, donc c'est ce que je leur dis, et je pense que dans le débat tel qu'il a démarré, il y a une grande confusion, parce qu'on lit partout que l'homéopathie est inefficace. En réalité, elle n'est pas inefficace, parce que l'effet placebo, et ça a déjà été dit, est en fin de compte une composante importante de la prise en charge d'un certain nombre de patients. Et l'effet est surtout retrouvé sur des symptômes subjectifs, mais importants, hein, ça peut être la douleur, l'anxiété, et même sur l'expression d'autres symptômes de maladies sous-jacentes. Par exemple, ça a été dit aussi par M. Chaste, je crois, vous avez un grand effet placebo dans le traitement de la maladie Parkinson, de l'intestin irritable, de troubles psychologiques et plein d'autres maladies. Donc c'est très important. Donc l'efficacité de l'homéopathie en tant que placebo, comme tout placebo, ce qui est important à comprendre, est supérieure à l'absence de traitement. Donc il y a une incompréhension dans la population si on lit dans une manchette que l'homéopathie est inefficace. C'est faux. Elle n'est pas plus efficace qu'un placebo qui lui-même est beaucoup plus efficace que rien du tout.
Justement, ces associations d'usagers, qu'est-ce que disent les gens quand on entend le déremboursement est possible, voire autre chose, vous allez voir un médecin, vous prenez une médecine finalement qui ne sert à rien. Comment les gens réagissent ?
Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que il y a un problème de base scientifique plus que faible dans la théorie de l'homéopathie, mais il y a une base scientifique forte dans la théorie du placebo. Alors peut-être le plus étonnant pour répondre à votre question, c'est que si on administre un placebo en disant à la personne « on sait que c'est un placebo, qu'il n'y a pas de principe actif, c'est juste du sucre », on obtient quand même, dans un certain nombre de cas, un effet placebo qui est documenté par des techniques modernes, notamment d'imagerie médicale. Autrement dit, l'effet placebo, même si on sait que c'est un placebo inerte, si on n'a pas besoin de la théorie de l'homéopathie, va générer une réponse en mobilisant des neuromédiateurs. Alors on parle des endorphines, bien sûr, la dopamine et des cannabinoïdes. Bon, donc on a des gros effets physiologiques, en fait, qu'on sait mesurer. Et c'est tout le problème de l'évaluation des nouveaux médicaments. C'est vrai que pour savoir si un nouveau médicament fonctionne dans beaucoup de pathologies, on l'évalue par rapport à un effet placebo. Et en fin de compte, c'est la différence qui permet de valoriser le médicament. Donc l'effet placebo, c'est quelque chose de tout à fait considérable et important en médecine, en fait.
Merci beaucoup Jean-Pierre Thierry d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller médical pour France Assos Santé. Je passe au dernier chapitre de notre débat parce qu'il nous reste peu de temps. Point très important, c'est un petit peu le troisième tiroir de cette polémique. Il s'agit de l'enseignement de l'homéopathie. C'est important parce que c'est aussi revenu sur le devant de la scène de l'actualité. En août dernier, fin août, le doyen de la faculté de médecine de Lille a suspendu le diplôme universitaire d'homéopathie. Et les présidents et doyens d'universités de pharmacie et de médecine, eux, veulent lancer une démarche d'évaluation tout en soulignant leur respect pour les praticiens. Comment ça peut se passer, justement, cette évaluation? L'évaluation, c'est de quoi? C'est de la pratique? C'est du médicament? C'est de quoi exactement dont il s'agit, professeur François Chaste?
Vous savez, ça fait 200 ans qu'on essaye de trouver la manière dont l'homéopathie pourrait fonctionner.
Est-ce que vous jugez qu'il faut mettre fin à cet enseignement en faculté?
Écoutez, moi je suis dans une université où on n'enseigne pas l'homéopathie, sauf, moi j'ai fait un cours... en sixième année de médecine à Paris Descartes sur l'homéopathie confrontée à la recherche clinique qui m'avait été demandée par le doyen. Bon, ça a duré une heure et demie chaque année. On ne peut pas dire que ce soit un enseignement de l'homéopathie. C'était une mise en perspective de l'homéopathie, des recherches qui sont réalisées dans ce domaine. Je voudrais revenir sur le placebo. Le placebo, depuis 1964, la conférence d'Helsinki sur la recherche médicale, c'est quelque chose qui n'est pas neutre en médecine. Il y a une démarche éthique dans toute relation entre un médecin et un patient. Et on n'a pas le droit de prescrire un placebo sans le dire à un patient. Lorsque l'on fait une recherche clinique d'efficacité d'un médicament contre un placebo, on propose au patient d'entrer dans une recherche.
Dans un protocole particulier.
Normal. C'est validé par un comité de protection des personnes et on dit aux patients, vous allez avoir une chance sur deux
d'être traité réellement.
Dans la branche placebo. Mais cette branche placebo, il faut faire attention parce qu'on n'intervient pas avec placebo pour le traitement du sida, pour évaluer si le médicament actif est plus efficace que le placebo. Or, dans la pratique homéopathique, il y a l'utilisation de ces médicaments, donc on a dit qu'ils n'étaient pas plus efficaces qu'un placebo, dans des approches quand même singulièrement dangereuses pour les patients. Il y a une association qui s'appelle Homéopathes sans frontières. Et Homéopathes sans frontières propose par exemple de traiter le paludisme par l'homéopathie. Enfin, c'est des gens qu'on devrait immédiatement traduire devant un juge d'instruction pour non-assistance à personne en danger. Le paludisme, c'est pas l'angine virale répétitive des enfants dont on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose de très grave, d'autant plus grave qu'on exerce dans des pays africains, par exemple, où là, l'approche scientifique est remise en cause par des traditions ancestrales, par des difficultés particulières. Et donc, moi, je m'inscris en faux contre dire c'est un placebo, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que on n'a jamais défini la limite où on avait le droit d'utiliser un placebo et où on n'a plus le droit d'utiliser un placebo. Et la Convention d'Helsinki, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, nous dit il est interdit de prescrire un placebo. Je vous rappelle qu'Helsinki, c'était quelques années après le code de Nuremberg qui faisait lui-même suite au drame qu'on a connu avec la médecine nazie entre 1933 et 1945, où on expérimentait des médicaments ou des approches thérapeutiques sur des patients, bien sûr, sans les prévenir, sans les informer. Et donc, nous avons aujourd'hui un devoir éthique qui mérite une réflexion approfondie sur le rôle de la prescription des placebos en médecine.
Docteur Dominique Paulin, quand on vous dit placebo, vous répondez quoi ?
C'est toujours la question du placebo. Il y avait une émission extrêmement intéressante avec Toby Nathan sur France Inter il y a 48 heures, qui est vraiment un psychanalyste et
oui,
un thérapeute.
Sur France Culture, il y a deux jours.
Voilà, que j'apprécie beaucoup. Et il a eu une réflexion justement à propos du placebo qui m'a beaucoup intéressée. C'est j'essaye, ça marche, j'y crois.
On a arrêté ça depuis plus de 100 ans, c'était la méthode expérimentale.
Voilà, sauf que je trouve qu'il avait une manière de pouvoir effectivement faire qu'on puisse retrouver cette notion-là, qui permet de dire qu'il n'y a pas uniquement l'effet placebo.
C'est un effet empirique ce que vous nous décrivez. On voit le résultat, mais là, on est en dehors de toute démarche scientifique.
Moi, je suis des patientes en gynéco-obstétrique depuis longtemps. Et je pratique aussi le suivi pendant l'accouchement de ces patientes. Quand tout d'un coup, il y a une fermeture du col qui empêche effectivement le déroulement normal. Je cherche les symptômes qui correspondent à un remède correspondant à la situation de la patiente et lui donne. Ça ne marche pas. Je me suis trompée, je reprends la situation et je lui donne une autre dose. Et là, ça marche. C'est-à-dire que si je fais une erreur dans ma prescription homéopathique, en fonction des symptômes que j'ai recueillis de la patiente, ça ne fonctionne pas.
Et à partir de combien de temps vous allez demander qu'il y ait un déclenchement médicalisé ? Passer par exemple vers une césarienne en urgence ou faire un déclenchement.
Ça se fait en milieu hospitalier. C'est-à-dire que la patiente, elle n'est pas à la maison, etc. Elle est sous monitoring, etc.
Oui, bien évidemment. Voilà. Mais à partir de quel moment vous considérez que la démarche homéopathique trouve sa limite et qu'on arrive dans une démarche d'urgence et qu'il faut y aller, tout simplement, pour être concrète, Dominique Paulin.
Simplement, si le remède ne fait pas d'effet, on passe évidemment à la césarienne. Sauf que il y a une étude qui a été faite quand même en clinique qui montre que les accouchements suivis par homéopathie durent environ une heure et demie de moins que les autres et qu'on peut vraiment avoir une action directe sur des dystocies, etc.
Je voudrais revenir quand même à la question de l'enseignement. Hein. J'essaie quand même de recadrer un petit peu le débat sur les sujets que je voulais aussi traiter. Oui. C'est qui les élèves qui sont attirés par l'homéopathie ? Vous enseignez, docteur Paulin ? Ce sont des généralistes ? Ils ont quel profil ?
Il y a des généralistes, généralement de jeunes générations. Il y a aussi des spécialistes, des neurologues, des pneumologues, des spécialistes qui sont intéressés par cette démarche et qui viennent suivre l'enseignement.
Il y a une demande du public.
Professeur François Chaste.
Force est de constater que, puisqu'il y a une demande, eh bien, il y a une. Les médecins veulent apporter des réponses, de la même manière que j'ai des confrères pharmaciens qui font des préparations homéopathiques. Bon, dès lors qu'ils ont de l'eau distillée dans leur et du lactose, donc tout va bien puisqu'il y a que de l'eau et du lactose.
Ce qui est quand même gênant, c'est que vous partez toujours du principe qu'il n'y a rien dans les globules.
Mais il n'y a rien, madame. Il n'y a rien, puisque on sait très bien qu'à...
C'est bien ça le problème, c'est quand on a un débat où tout est blanc et tout est noir, c'est compliqué.
Non,
c'est-à-dire vous partez du principe de base qu'il n'y a rien.
Mais
sans écouter.
C'est le principe des dilutions infinitésimales. Enfin, c'est Samuel Hahnemann qui, en 1810, dans son Art de guérir,
c'est
a défini.
C'est la définition de l'homéopathie.
C'est la dilution infinitésimale qui fait qu'au-delà de 9 ou 10 CH, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus une molécule dans le granule ou dans le flacon de médicaments homéopathiques. Alors, il y a la mémoire de l'eau.
Écoutez, on vous envoie un dictionnaire entier par mail il y a 30 ans, vous auriez trouvé ça fou parce que c'est dans l'impalpable. Hein, on clique, ça part, vous le recevez de l'autre côté, vous l'imprimez.
Mais oui, mais parce qu'on
Pour vous, Dominique Paulin, c'est parce qu'on n'a pas encore trouver la démonstration, c'est ça la question.
Il est possible qu'on n'ait pas encore trouvé les moyens de la démonstration, comme on a attendu des années pour l'aspirine, qu'on a prescrit parce que ça marchait et qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait au départ.
Oui, mais aujourd'hui, on a la preuve que l'homéopathie ne fonctionne pas plus que le placebo. L'aspirine a un effet supérieur au placebo. Donc l'homéopathie est attractive pour les jeunes médecins aussi, parce que ça permet d'avoir du coup...
Pierre de Brémondard, oui.
Au niveau, je voulais revenir sur l'enseignement. Ça permet d'avoir, pour nous médecins, une approche en effet holistique, une approche globale de la patiente. Mais ce que j'ai appris dans mes études, j'étais à la base assez attiré par l'homéopathie. Et j'ai appris au cours de mes études que je n'avais pas besoin aujourd'hui de donner des granules à mes patients pour les faire aller mieux. L'effet placebo, l'effet contextuel, repose avant tout sur la relation entre le médecin et son patient, et c'est là-dessus que je me concentre. J'ai pas besoin de caractériser, de mettre mon patient dans une case, dans un profil, pour l'accompagner. Je l'accompagne tel qu'il est. Et du coup, par rapport à l'enseignement, l'autre chose à faire, c'est aussi de suivre l'argent. Qui finance aujourd'hui les principaux enseignements? C'est les laboratoires pharmaceutiques. C'est le laboratoire Boiron,
qui est le leader en France de l'homéopathie,
mais aussi Velleda et Lenning, qui sont les deux autres laboratoires les plus connus. C'est eux qui financent les principales formations, c'est eux qui envoient les formateurs. Pourquoi? Pour pouvoir écouler leurs produits derrière.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cas-là, si on parle des financements, il pourrait vous reprocher des choses similaires pour d'autres enseignements ou c'est totalement différent?
C'est tout à fait exact. Mais on est dans une logique de transparence au niveau de la santé. C'est pour ça que j'ai déclaré mes conflits d'intérêts au début. Et c'est pour ça aussi qu'on s'engage, notamment la plupart des jeunes médecins que je retrouve dans le collectif, à ne avoir le moins possible de contact avec les laboratoires pharmaceutiques et avoir des formations à part. On se forme en dehors des laboratoires pharmaceutiques, on se forme via les revues telles que la revue Prescrire ou les revues Cochrane qui sont le plus possible indépendante de cette industrie.
C'est le dernier mot, il nous reste 30 secondes, vraiment, sinon ça va couper de toute façon.
Moi, je suis enseignante à l'Institut National d'Homéopathie Français, qui est un institut absolument indépendant des grands laboratoires. Hein, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui financent par choix leurs études.
Donc, il peut y avoir des configurations différentes. On a bien compris, je voulais que tout cela soit apaisé. On n'est pas monté dans les aigus, mais c'était pas non plus complètement calme. Mais en tout cas, tout va bien. Il n'y a pas eu de nom d'oiseau, c'est ça si j'y tenais vraiment. Merci beaucoup à professeur François Chasse, chef du service de pharmacie clinique, ancien chef du pharmacie clinique du groupe Necker, docteur Pierre de Brémondard, médecin généraliste, et vous, Dominique Paulin. Docteur Paulin, merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur l'homéopathie et pour ce débat plutôt animé. Priorité santé touche à sa fin. Demain, nous allons parler de la ménopause. Ça s'annonce plutôt calme, avec énormément de questions au 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.